On va prier et on va regarder la suite de du livre du petit prophète Osée. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle est la vérité, Seigneur. Sur elle, nous pouvons fonder nos vies, nous pouvons fonder nos projets. Tu veux nous parler par ta parole, Seigneur. Ton Esprit Saint l'a inspiré, ton Esprit Saint la restitue dans nos cœurs. Aide-nous ce matin à écouter peut-être les choses que nous ne voudrions pas entendre. Merci parce que ta parole est pleine d'exemples qui nous ont été donnés pour notre instruction, qui nous ont été donnés pour éviter de tomber dans les pièges tendus par notre ennemi, tendus par notre vieille nature, notre chair, le monde. Seigneur, que ces paroles qui ont été écrites voilà des milliers d'années, Seigneur, puissent résonner dans nos cœurs aujourd'hui avec l'urgence de la pertinence, Seigneur. On lit des fois des choses qui ont été écrites il y a des dizaines d'années seulement, et elles sont complètement dépassées. Mais ta parole, Seigneur, elle ne change pas, Seigneur. Elle est comme l'herbe, elle est contrairement à l'herbe du matin qui fane, au bout de la journée, elle ne devient pas vieille, Seigneur. Elle est toujours d'actualité. Et elle peut nous sauver, Seigneur. Tu l'as envoyée pour accomplir son effet et tu nous promets qu'elle va l'accomplir, Seigneur. Puissions-nous le voir aujourd'hui, dans les jours et semaines et mois à venir, Seigneur. Touche nos cœurs. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous, après quelques semaines d'interruption avec la célébration de Pâques et puis l'enseignement dans Jean 21, on reprend le cours de notre étude dans les petits prophètes. On en est au premier petit prophète. Le petit prophète Osée, en fait, on les appelle petits prophètes. En hébreu, on les appelait les 12, parce qu'il y en a 12. Et le fait qu'on les appelle les petits, c'est plus en rapport avec le volume de leurs écrits qu'en fonction d'une moindre importance qu'ils auraient par rapport aux grands prophètes que sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Mais en fait, le livre d'Osée a plus de chapitres que le livre de Daniel, je crois. Et on a vu que dans ce petit livre, on l'a présenté Dieu veut nous montrer un amour fidèle, que son amour à lui est fidèle, et il le contraste avec l'amour de son peuple. L'amour de son peuple qui va, qui vient, qui n'est pas stable, qui n'est pas imperturbable comme il devrait l'être. Encore une fois, quand on lit ces textes, on doit se demander qu'est-ce que ça me dit personnellement. Et le Seigneur veut nous montrer que nous avons tendance à être infidèles à lui. Il nous rappelle dans le Nouveau Testament que même lorsque nous sommes infidèles, lui est fidèle. Et il demande aux prophètes pour illustrer ces sentiments d'être tellement trompé, tellement déçu par son peuple qui, au lieu de l'adorer lui, se met à adorer des tas de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, lorsque des faux dieux remplace l'adoration, remplace le vrai Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, qui s'est sacrifié en la personne de son Fils sur la croix au point de venir s'incarner, mourir et mourir pour nous, pour nos péchés. Et souvent, les prophètes demandaient, Dieu demandait aux prophètes de, non seulement de dire des paroles, mais aussi d'interpréter par leur vie quelque chose de très visuel qui allait frapper les gens. Et là, Dieu a demandé à Osée d'aller épouser une prostituée, une femme qui le trompera même par la suite, après qu'il l'ait épousée. Et tout ça, c'est pour dire la souffrance de Dieu lorsqu'il voit que nous sommes loin de lui. On a souvent l'idée que lorsque nous éloignons de Dieu, pardon, il est un peu en colère contre nous, et pour nous le faire savoir, il retient ses bénédictions, il laisse des choses nous toucher qui, nous espérions, ne nous touchent pas. Mais en fait, ce qui est encore plus touchant, ce qui est encore plus émouvant, c'est de réaliser que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous faisons mal au cœur de Dieu. Dieu a mal au cœur, à son cœur. Et lorsqu'on voit cet aspect, qui est un aspect totalement biblique, c'est pas juste une impression que j'ai eue aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez qu'il vous aime en retour. L'amour qui n'est pas rendu, c'est un amour qui fait mal. Alors, des fois, c'est bien de laisser l'amour qu'on a pour quelqu'un qui ne vous le rend pas, de le remplacer par de l'amitié ou de ne pas être complètement bloqué. Mais Dieu, il veut que nous l'aimions. Dieu nous aime tellement, on a envie que la personne aimée ou les personnes aimées nous aiment en retour. Et il montre au peuple d'Israël, le peuple d'Israël, en fait, c'était, à l'époque, c'était déjà deux royaumes divisés. Après David, il y avait eu le roi Salomon, le royaume d'Israël était à son apogée, mais à la succession de Salomon, le royaume a été divisé. Le royaume du nord avait pour capitale Samarie et Jéroboam comme roi, le premier roi. Le royaume du sud, c'était Juda. Avec Juda et Benjamin, il y avait le roi Roboam. Ce qui est intéressant, c'est que tous les rois qui ont suivi dans le royaume du Nord, il n'y en a pas eu un seul pour racheter les autres. Ils étaient tous de mauvais rois. Certains étaient terribles, d'autres étaient moins terribles que les plus terribles, mais ils étaient terribles quand même. Et dans le royaume du Sud, on a eu une alternance. Il y avait des rois qui étaient bons, qui revenaient à Dieu, qui essayaient de faire ce que David et Salomon avaient fait en bien. Et puis, il y avait des moments où ça tombait. Et c'est pour cela qu'en fait, le royaume du Nord a été le premier à être enlevé en exil. Ils sont allés chez les Assyriens. Pas les Syriens, mais les Assyriens. Les Assyriens, c'était un peuple éminemment cruel. Aujourd'hui, on frémit lorsqu'on voit les exactions de Daesh, qui peuvent égorger les gens de sang-froid, qui peuvent utiliser des enfants pour égorger des adultes, qui, en tant qu'adultes, peuvent égorger des enfants. Et on se demande, mais comment est-ce possible? Comment peut-on être tellement aveuglé, ne plus respecter la vie, point de faire des attentats aveugles? Et les Assyriens étaient passés maîtres dans l'art de faire souffrir les gens. C'est eux qui ont inventé le supplice de la crucifixion, où on vous soumet à des souffrances physiques terribles et on vous laisse agonir, oui c'est ça je crois, agoniser, par asphyxie, en vous vidant de votre sang, de votre respiration, ça dure des heures, et une souffrance intense. Intéressant que la Bible avait prophétisé cette fin avant même que ce soit inventé, mais les Assyriens ont mené ça à la perfection. Et puis ils avaient une façon terrible de subjuguer les peuples, de leur montrer, de faire peur aux voisins de leur force et de leur cruauté. Lorsqu'ils avaient, et c'est ce qui va se passer pour ce royaume du Nord, lorsque les peuples étaient exilés, on ne les envoyait pas en bateau, on ne les envoyait pas en train, ils marchaient, ils étaient à pied. Et pour les humilier, on les mettait complètement nus. Et pour qu'ils avancent à un rythme régulier ou qu'ils meurent, on avait une corde avec des hameçons qu'on leur mettait dans les joues. Et il y avait un rythme. Et si on ne voulait pas avoir la joue déchirée, arrachée, on faisait tous ces efforts pour marcher au même rythme que tout le monde. Une façon d'avoir des trains à l'heure, ça, je suppose, mais non, je plaisante. Donc c'était cette cruauté terrible qui guettait ce peuple. Et on va voir aujourd'hui, on a vu les reproches au chapitre 4 que Dieu a fait à ce peuple infidèle. On a vu que les chefs des peuples ne valaient pas mieux que le peuple. À un moment, le prophète disait « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous a guérira. Il nous guérira, pardon. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie, pour arroser, qui arrose la terre. » Autrement dit, Dieu annonce qu'il va y avoir un jugement qui va venir tomber sur ce peuple infidèle qui est comme une femme prostituée qui ne respecte pas sa fidélité à son mari. Le prophète a des mots d'encouragement encore, une dernière chance. « Venez, retournons à l'Éternel. » Dieu nous invite toujours à la repentance. Si on entend Dieu nous dire « Reviens à moi, repens-toi », ça veut dire qu'il est encore temps de le faire et qu'il est très important de le faire. On vit dans une société qui vit sans égard pour Dieu, qui a décidé que Dieu n'existait pas, c'est bien pratique, on n'a plus de comptes moraux à rendre à personne. Pourtant, Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. On sait qu'il y a quelque chose de plus grand que juste de vivre au jour le jour pour un salaire, pour des indemnités de chômage, en essayant de s'amuser le plus possible, en essayant d'arriver à la retraite. Non, il y a un Dieu qui existe. Il y a une vie après la mort. Si vous avez déjà vu quelqu'un décédé, la dépouille d'une personne, surtout d'un être cher, vous réalisez que le corps est là, la personne est là, mais il y a quelque chose qui est parti. Cette chose qui est partie, c'est l'âme, c'est l'esprit de cette personne. Cette chose, elle continue à exister. Il n'y a pas d'anéantissement de l'esprit. Et donc, l'importance de connaître Dieu, de savoir qui il est, de le connaître et de l'aimer, parce que quand on le connaît, on ne peut que l'aimer. Si vous avez un Dieu qui vous fait peur, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu. Il y a des religions où le Dieu qui est adoré est un Dieu qui manque d'amour, qui n'a pas d'amour. On ne peut pas savoir s'il nous aime ou pas. La croix ce symbole chrétien qui se trouve partout en Europe. Contrairement à ce que les hommes politiques qui ont décidé de l'Union européenne ont décidé de rejeter les racines chrétiennes. Et ce qu'on voit arriver en ce moment, les Brexit, les Grexit, les etc., c'est le résultat, je pense, du fait qu'on n'a pas voulu au moins reconnaître que nos racines sont des racines judéo-chrétiennes. Dieu nous a bénis comme il a béni les États-Unis parce qu'on le reconnaissait publiquement. Aujourd'hui, on a des petites idoles, on a des petites statuettes. Dans nos mairies, il y a des Marianne. C'est quand la dernière fois que Marianne vous a aidé? Je ne parle pas avec le RSA ou des choses comme ça, mais moralement, lorsque vous avez été dans la peine, dans le deuil, est-ce que vous allez voir les valeurs républicaines et vous faire consoler par Marianne? Marianne vous enverra peut-être des psychologues avec une philosophie vaine parce qu'elle est sans Dieu. Il continue dans son jugement. On va avancer un peu dans le chapitre 7, si vous voulez vous y tourner. J'ai parlé du royaume du Nord. La plus grande des tribus s'appelait Éphraïm. Donc on utilise, à partir de la division du royaume de David et Salomon en deux petits royaumes, plus petits royaumes, on utilise pour le royaume du Nord, on parle d'Israël, d'Éphraïm, la capitale c'est Samarie, et pour le royaume du Sud, on parle de Juda, parce que c'était la tribu la plus importante, il n'y avait que deux tribus, Juda et Benjamin, de Juda, on dit, et la capitale c'était Jérusalem. On va lire. « Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Dieu voulait bénir, il voulait que le peuple revienne à lui. Mais la méchanceté de Samarie, donc du royaume du Nord, car ils ont agi frauduleusement, ils ont triché. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs agissements les entourent, ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Donc c'était des mauvais rois. Et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, infidèles, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Le jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit, leur boulanger a dormi et le matin, le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés comme un four et ils dévorent leurs juges. Tout le roi tombe. Aucun d'eux ne fait appel à moi. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne recherchent pas malgré tout cela. Ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel. Je les corrigerai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. On dirait presque que le prophète a écrit ce passage lorsqu'il avait faim. Il parle pas de pain au chocolat, mais il parle de four, il parle de pain, et puis il parle d'une colombe. Qu'est-ce qu'il veut dire dans tout ça? Il voulait guérir ce peuple du Nord, ce royaume du Nord, mais la méchanceté de ce peuple a été révélée. Ils ont agi de façon trompeuse, frauduleuse. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. On pense que c'est peut-être l'arrivée des Assyriens pas loin de là. Et ils se convainquent, ils sont convaincus qu'en fait Dieu a oublié leur méchanceté, qu'il ne voit pas leurs agissements. Leurs agissements les entourent, ils sont devant moi. Ça, c'est quelque chose qu'il est bon qu'on réalise tout autant que nous sommes, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de secret. Rien n'est secret devant Dieu. Ça se trouve tout au long de la Bible, que ce soit dans Daniel 2, 22, dans Job 26, 6, si vous prenez des notes, Job 26, 6, Daniel 2, 22, Jérémie 16, 17, dans le Nouveau Testament, c'est dit de la même façon, dans Hébreux 4, verset 13, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Avec Dieu, il n'y a pas de compte offshore. Même si maintenant les comptes offshore, ils sont plus secrets. On peut trouver. Et de la même façon que c'est les gens qui savent que leur nom est sur la liste, maintenant ils commencent à avoir des sueurs froides, ils doivent mal dormir. On a vu que ça a conduit à la démission d'un premier ministre en Islande. On ne sait pas si le premier ministre anglais Cameron va pouvoir résister à la tempête qui a surgi, parce que pendant quelques jours, il a fait comme notre cher ministre Cahuzac, il a dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et quelques jours plus tard, il doit avouer, et maintenant il avoue qu'il a mal géré. Ça, la prochaine fois que vous êtes pris à mentir, dites que je suis désolé, j'ai mal géré le coup. Vous êtes convoqué par le percepteur des impôts, je lui dis, ah, la prochaine fois je gérerai mieux le coup. Dieu nous dit, n'essayez pas de cacher ce que vous faites devant moi, je vous vois. Quand vous croyez être seul, Dieu est là, Dieu voit. Et ça, c'est une bonne chose que d'avoir cette conscience de la présence de Dieu dans tous nos actes. Parce qu'il y a des choses qu'on fait quand on se croit seul, qu'on ne ferait pas si on avait d'autres personnes en notre présence. Et là, ce n'est pas n'importe qui est en notre présence, c'est le Dieu créateur de l'univers auquel nous devons rendre des comptes un jour. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Leur péché, c'est comme il brille, il est éclatant devant Dieu. Les péchés, on préférerait qu'ils restent dans l'obscurité. Vous avez vu sous le crime augmente lorsque les villes tombent, l'électricité tombe en panne dans la nuit. On se sent plus à l'aise la nuit, mais pour Dieu, tout brille comme en plein jour. Et ce que vous croyez faire en cachette, Dieu le voit, et ce sera un jour révélé. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Donc ils avaient des dirigeants, et j'ai dit que dans le royaume du Nord, il n'y en avait aucun pour acheter l'autre. Ils étaient tous mauvais et terribles. Ils étaient tellement mauvais que le péché de leur peuple les réjouissait. Ça montre un total désintérêt pour le sort des personnes qu'ils avaient, sur lesquelles ils régnaient. Parce qu'on sait que le péché fait du mal, le péché blesse. Et il a cette image d'un four chauffé par le boulanger. Peut-être qu'il avait faim là, et quand il écrivait, ses pensées se tournaient vers le... Il aurait pensé à des pains au chocolat ou à des galettes, des gâteaux. Et quand il parle d'un four chauffé par le boulanger, il veut dire que les passions pécheresses d'Israël, du royaume du Nord, brûlaient en anticipation d'actes de péché. Les chefs, les rois, se rendent malades par les excès de vin. Le roi se complaît dans les moqueries, il tend la main aux moqueurs. Et puis il dit qu'ils font des complots. Il faut savoir qu'il y a eu 5 rois en l'espace de peu de temps qui se sont succédés et qu'il y a eu des coups d'État. C'était une succession. Dans le royaume du Nord, il y a eu 13 dynasties qui se sont succédées pendant le règne d'Israël. Qui était un royaume séparé. Osée a été le témoin de l'assassinat de trois rois d'Israël, Zacharie, Shalum et Pekachia, ou Pekachia. Ça, c'est dans 2 rois 15 qu'on peut lire ça. Et ces rois, ils complotaient pour prendre le pouls, ou le futur roi complotait pour destituer le roi qui était. Il ne passait pas par des primaires, il faisait ça en cachette. Et il dit que leur cœur était pareil à un four. Parce que un four aussi, c'était une chose, et vous l'avez peut-être vécu quand vous faites du camping, le soir vous laissez le feu mourir, et le matin il suffit d'agiter un carton au-dessus du feu pour que les braises se rallument. C'est ce qu'ils faisaient quand ils faisaient les boulangers faisaient cela, ils laissaient leur feu mourir le soir et le matin ils n'avaient qu'à le rallumer. Pendant ce temps-là, ils laissaient la pâte se lever et le matin ils pouvaient faire cuire. Ils se sont tous échauffés comme un four. Il a cette idée du four qui est un endroit où nos cœurs se préparent au mal. Est-ce qu'il y a un four dans votre vie? Un endroit où vous entretenez des pensées de péché? Ça peut être n'importe où, ça peut être dans une chambre secrète de votre cœur. La Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit de ne pas, dans Romains 12, de ne pas faire de place au péché. Est-ce que dans votre vie, vous laissez par moments place au péché? Vous avez je parle d'un temps qui a évolué, mais ça pouvait être un copain vous passait un Playboy et vous le mettiez de côté pour pouvoir le regarder un jour. Vous n'osiez pas le faire tout de suite, mais vous gardiez quelque chose. Et ce four, c'est cet endroit où les hommes se préparent à pécher. Parce que la passion pécheresse est comme la source de chaleur qui va attiser le feu. Il dit que, verset 7, ils sont tous échauffés comme un four, mais aucun d'eux ne fait appel à moi. Aucun d'eux ne vient vers Dieu. Dieu nous dit là que, en fait, si on est soumis à la tentation, qu'on a envie de pécher, il faut courir à lui, lui dire « Seigneur, aide-moi ». Mais aucun d'eux ne le faisait. Ou alors, par moments, on peut avoir la conviction, et c'est une conviction qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient de Satan, qui nous dit « Écoute, ça fait trop longtemps que tu recommences les mêmes choses, les mêmes péchés, Dieu en a fini avec toi, tu as épuisé la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu, elle est inépuisable. Quelqu'un disait que la grâce de Dieu, c'est comme un... Penser qu'on peut épuiser la grâce de Dieu, c'était comme si un petit poisson disait « Oh, faut que j'arrête de boire parce que je vais vider l'océan. » La grâce de Dieu, elle est là pour celui qui va vers Dieu, celui qui la demande, celui qui la reçoit. Il dit que Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est pour ça que je pense qu'il avait faim, là. Il multiplie, il est passé dans une boulangerie et ça... Comme c'était un prédicateur, il voyait des images pour ses messages partout. Un gâteau qui n'a pas été retourné. Alors c'est un peu bizarre comme expression, c'est pas qu'il voulait faire une tarte tatin. Vous savez, la tarte tatin, on fait cuire les... On met des pommes en dernier lieu, puis on retourne, et c'est un accident, mais ça fait des gâteaux délicieux. Non, ça veut dire que c'est gâché. Les gâteaux à l'époque, ce n'était pas des gâteaux à étage, c'était des galettes plutôt. Et donc l'idée, c'est plutôt, penser plutôt à une crêpe ou à une soca, pour parler avec les images locales. Si on ne retourne pas la crêpe quand on la fait cuire, il y a un côté qui va être complètement noir et l'autre qui va être encore liquide ou collant, et finalement ça va finir à la poubelle. Parce qu'il dit « Éphraïm se mêle avec les peuples ». Au lieu de rester saint, c'est-à-dire séparé du monde, il se mêle au monde. Ils se mêlent avec les peuples. Les peuples qui les entouraient étaient connus pour être des peuples païens qui ne connaissaient pas Dieu, des peuples qui vivaient dans l'immoralité en sacrifiant au roi de la fertilité avec de l'immoralité sexuelle, au dieu de l'immoralité, au dieu des récoltes. Là aussi, ils se livrait à des orgies pour honorer le Dieu qui donnait la prospérité, qui multipliait les récoltes. Il se mêle avec les peuples. La Bible est très claire et c'est quelque chose qui est toujours difficile pour nous, parce que nous savons que nous devons rester en contact avec les gens qui ne sont pas chrétiens. On doit témoigner dans le monde. Et je cite souvent le pasteur Dave Guzik, qui est déjà venu ici, qui est l'auteur de très bons commentaires sur toute la Bible, qui dit qu'en fait, le chrétien doit être dans le monde, mais ça ne veut pas dire que le monde doit être dans le chrétien. Il a cette très belle illustration qui me parle beaucoup. C'est qu'un bateau, pour être un bateau, doit être dans l'eau. Un chrétien, pour être un chrétien, doit être dans le monde. Nulle part il est dit qu'on doive s'isoler dans des monastères, dans la parole de Dieu. Alors il y a des exemples de personnes qui ont pris un temps à part. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ pour sauver tous les hommes. Il veut que tous les hommes viennent à la repentance et soient sauvés. Et si, une fois qu'on est sauvé, on part se mettre sur la montagne, une petite cabane de montagne bien sympathique, avec une petite rivière à côté pour attraper des truites, un petit champ totalement tranquille, ça peut être sympa, mais ce n'est pas le but de nos vies. Nos vies, c'est de témoigner de l'amour de Christ. Et donc, on est appelé à être dans le monde, mais le danger, c'est qu'on laisse le monde venir en nous. Et ce pasteur dit que le bateau doit être un bateau, pour être un bateau doit être dans l'eau, mais il ajoute, mais si l'eau est dans le bateau n'est plus un bateau, parce qu'il coule. Et je vous invite à réfléchir à cette petite illustration. Un bateau, pour être un bateau, doit être dans l'eau, mais si l'eau est dans le bateau n'est plus un bateau. Et je ne vous mène pas en bateau, c'est la vérité. Et là, il dit, ils se sont mêlés avec les peuples. Paul le dira dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne formez pas des attelages disparates avec des incroyants. Qu'est-ce que ça veut dire ? De façon pratique, ça veut dire que si vous êtes croyant, ne fréquentez pas des incroyants, parce que si vous entrez dans un attelage, entre guillemets, une union de mariage avec un incroyant, vous allez souffrir. Si vous êtes déjà marié à quelqu'un qui est incroyant et que vous deveniez croyant, on vous dit de rester avec votre mari incroyant, votre femme incroyante. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 7 aussi. C'est 1 Corinthiens 7. Par votre attitude pieuse, votre attitude de respect de Dieu, que vous allez pouvoir gagner l'incroyant à Dieu. Mais si vous avez le choix, évitez de vous mettre en position d'avoir un attelage disparate. On pense que ça s'applique bien sûr au mariage, mais aussi aux relations dans le monde des affaires. N'allez pas fonder une société avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Il va vous dire, bon, on va tricher un peu, on ne va pas déclarer tous vos impôts, on va dire que notre produit il est garanti 5 ans, même si ce n'est pas vrai. Il va vous encourager au mensonge et vous allez être déchiré intérieurement. Et si vous succombez à ça, l'eau va rentrer dans le bateau et le bateau va couler. Votre foi va couler. Vous allez être bousculé, mais si vous êtes fidèle à Dieu, en faisant ça, vous n'allez pas couler. Vous serez comme Paris, fluctuac, ballotté, nec mergitur, mais vous ne coulerez pas. Ça, c'est la devise de Paris en latin, je crois. Fluctuac, nec mergitur. Ils sont tous échauffés comme un four, des étrangers dévore sa force, il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Ce qui est terrible, c'est que on peut s'éloigner de Dieu progressivement sans s'en rendre compte. Et notre cœur, comme dit Jérémie 17,4, qui est tellement tortueux, il est tortueux par-dessus tout, qu'il est incurable, qu'on ne peut pas connaître notre cœur. Et si on se fie à notre cœur pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, on se prépare des lendemains pleins de tristesse. Parce que notre cœur va nous faire croire que telle chose est bonne, que telle autre vaut la peine. Il y avait des étrangers, des Assyriens qui commençaient à s'infiltrer, qui dévoraient sa force, mais le royaume ne s'en doutait pas. La vieillesse ou des cheveux blancs qui commencent à apparaître sur la tête, mais il ne les voit pas pour ceux qui ont encore des cheveux. L'orgueil est là, mais on se rend pas compte qu'on est orgueilleux. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas se rendre compte qu'on s'éloigne de Dieu. Demandons, et le réveil, c'est un peu ça. C'est, vous vous souvenez, j'avais eu ce rêve bizarre, je l'ai partagé il y a quelques mois, je vais le rappeler juste pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne l'auraient pas entendu. C'est que je rêvais, un matin j'ai eu un cauchemar, et après je rêvais en fait que je m'étais endormi en vous parlant. Et ça a été, waouh, Seigneur, je crois que tu veux me dire quelque chose, peut-être que je m'endors sans m'en apercevoir. Que mon zèle n'est plus le même, que je n'exhorte plus les gens à vivre pour Dieu de la même façon que j'ai pu le faire dans le passé. Ne nous endormons pas. Une histoire terrible, c'est celle de Samson qui jouait avec Dalila, parce qu'elle cherchait à connaître la source de sa force pour les Philistins l'avaient soudoyé pour qu'elle leur livre. Et elle venait vers lui, « Dis-moi, tu m'aimes pas parce que tu me dis pas d'où tu tiens ta force. » Il dit, « Oh, c'est parce que je fais ceci ou je fais cela. » Et à chaque fois, il faut que je sois... Si on m'attachait avec des cordes, je pourrais être facile à attraper. Elle l'appelait, pendant qu'il dormait, elle le ligotait. Puis elle lui disait, Samson, les Philistins sont là et pof, il écrasait, il déchirait ses liens, il mettait la pâtée aux Philistins, comme Obélix ou Romain, quoi. Et en fait, un dernier moment, il jouait avec le feu et il lui avouait qu'en fait c'était ses cheveux qui représentaient sa consécration à Dieu, qui était la source de sa force. Et il est dit qu'il n'avait pas réalisé, la dernière fois où il s'est levé devant les Philistins, il n'avait pas réalisé que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. C'est quelque chose de progressif. Ils ne voient pas ce qui leur arrive. Prions pour que nous soyons conscients si nous éloignons de Dieu, personnellement ou ensemble en tant qu'Église, d'être repris par le Seigneur et de nous réveiller. Il tombe dans les pièges tendus. Éphraïm est une colombe stupide. Il paraît que j'ai jamais fait d'expérience avec les colombes. On a une jolie colombe, ça c'est un symbole de l'Esprit Saint, et là c'est très positif, mais il paraît que les animaux, ils ont un cerveau d'oiseau, mais pas très grand, et on peut les faire tomber dans des pièges facilement. Et là, ils font ce que font nos sociétés, ils cherchent des alliances avec d'autres pays, ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie, ils se trompent d'aide. Au lieu d'être comme des pigeons voyageurs qui reviennent à la source, à la maison, ça serait de revenir à Dieu, ils vont chercher de l'aide ailleurs. Est-ce que quand ça ne va pas bien chez vous, dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, est-ce que vous allez voir vos amis, des conseillers en relation maritale? Ces choses peuvent avoir leur place, mais est-ce que la première chose que vous faites, c'est de revenir à Dieu, si vous êtes chrétien? Nous devons D'abord, avant toute chose, revenir chercher de l'aide auprès de celui qui seul peut nous aider, Dieu lui-même. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, au lieu d'aller vers Dieu, ils s'éloignent. Ruine parce qu'ils me sont infidèles. Et puis ils voudraient les sauver, mais ils disent des mensonges contre lui. Ils ne crient pas vers lui. Ils voient leurs problèmes, mais ils ne voient pas le péché. Ils se lamentent sur leur lit.
Oh là là, ça ne va pas, ça ne va pas.
Hé, est-ce que tu vas vers Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu lui demandes pardon? Il n'y a pas de place pour Dieu dans le cœur de l'insensé. Et verset 16, ce n'est pas au Très-Haut qu'il retourne. Dieu attend qu'on aille à lui quand on souffre, quand on a besoin de son aide. Il veut qu'on aille vers lui quand tout va bien, qu'on a des bonnes choses qui se passent dans nos vies pour le remercier. Ils sont pareils à un arc trompeur. Qu'est-ce que c'est qu'un arc trompeur? C'est un arc qui ne tire pas juste. Et eux aussi, ils essayent d'aller chercher de l'aide à droite alors qu'il faudrait qu'ils aillent au centre, à Dieu. Et leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. On va lire rapidement les premiers versets du chapitre 8. Embouche la trompette, ça veut dire annonce. D'habitude, on sonnait la trompette pour rassembler l'armée, mais là, Dieu appelle l'ennemi à attaquer. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. Encore une fois, Dieu dit que c'est pas parce qu'on dit qu'on connaît Dieu, si on ne vient pas à lui, sérieusement, quand les choses vont mal ou qu'elles vont bien, alors on est des idolâtres. On cherche Dieu pour ce qu'il n'est pas, pour quelqu'un qui peut nous bénir ou nous épargner davantage de souffrances. Mais là, il a déjà décidé, ils vont être anéantis. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible, et je terminerai avec ça, c'est le fait de dire que, comme avec l'arche de Noé, il y a un moment où Dieu n'est plus là pour nous aider. Si nous persistons à le rejeter et à le rejeter, il arrive un moment où, comme pour le Pharaon, qui refusait de se soumettre à la volonté de Dieu, il a fait que, à un moment, il ne veut pas, arrive un moment où il n'a pas pu, il ne peut pas. Si vous ne voulez pas revenir à Dieu, lui demander pardon, si vous ne voulez pas vous repentir, la chose terrible, c'est qu'il arrivera un moment où vous ne pourrez plus. Dieu est un Dieu plein de grâce. Sa grâce ne se tarit pas, mais encore faut-il faire appel à cette grâce et venir à lui et lui demander pardon pour nos péchés, revenir à lui. On verra les prochains versets que Israël continue, mais qu'Israël va pouvoir recevoir quand même l'amour de Dieu. Dieu est capable de l'amour, ce qu'on appelle l'amour dur, l'amour sévère. Il nous laisse aller si nous nous éloignons de lui, comme des parents qui laissent leur enfant faire des bêtises pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs bêtises. Mais ne comptons pas là-dessus, revenons à Dieu tant qu'il est temps. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole qui n'est pas facile à entendre. On aime bien parler de ta grâce Mais tu veux nous rappeler que nous avons une responsabilité à... C'est nous qui devons nous repentir, c'est nous qui devons vivre des vies consacrées à toi. C'est nous qui devons nous éloigner du péché pour venir à toi, nous repentir. Seigneur, permets que nous ne soyons jamais dans cette situation d'Israël qui doit passer par l'exil, la souffrance terrible, pour pouvoir être en mesure de revenir à toi. Seigneur, nous te remercions pour cet avertissement. Merci pour l'exemple de ton peuple, des errements de ton peuple. Garde-nous d'errer loin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être toujours branchés sur ton esprit, Seigneur, à être toujours en contact avec toi par ton esprit, par ta parole. On avait parlé de ces blocs d'autonomie qui doivent, pour marcher, Seigneur, il faut qu'ils soient toujours chargés, Seigneur. Aide-nous à nous recharger quotidiennement de ta parole, de ta sainteté, de ton Esprit Saint. Aide-nous à communier avec les saints, avec, les uns avec les autres, Seigneur, à nous rappeler, à étudier ta parole ensemble. Seigneur, nous voyons combien il est facile de nous éloigner progressivement de toi, de laisser filer les réunions, de ne pas être là le dimanche ou d'arriver tard, de pas nous investir, Seigneur. Pardonne-nous et aide-nous à, avec ton Esprit Saint, Seigneur, avec ton aide, à le faire. C'est ce que nous demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen.